Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Considérez qu'un enfant est parti alors que vous auriez peut-être pu éviter ça, c'est très très difficile. J'ai juste envie d'une chose, c'est de lui dire je suis désolée.
Un document exceptionnel ce matin sur RTL. L'ancienne compagne de Nordal Lelandais s'exprime pour la première fois. Elle avait prévenu les gendarmes de la violence de celui qui est aujourd'hui accusé, entre autres, du meurtre de Maëlys. Document au micro de notre correspondant Serge Puyot à retrouver dès 8h20. Mais pour le reste de l'actualité, Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Des tensions redoutées lors du match France-Turquie ce soir au Stade de France, alors que Paris condamne l'intervention d'Ankara contre les Kurdes en Syrie. Plusieurs personnes dans l'entourage du tueur de la préfecture de police de Paris interpellées ce matin dans le Val-d'Oise, nous appellerons Olivier Bois. Et puis le gouvernement veut encourager les Français à acheter des actions françaises des Jeux. La privatisation est lancée le 7 novembre, mais au fait, ceux qui ont pris des actions dans des entreprises privatisées depuis plus de 20 ans, y ont-ils laissé leur chemise ou ont-ils été gagnants? Ce sera la question du 8h.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Faudra-t-il ce soir monter le son de la Marseillaise pour couvrir les sifflets au Stade de France? C'est ce qu'envisage très sérieusement le patron de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët. Rarement un match de l'équipe de France se sera déroulé dans un climat aussi électrique. La Turquie, sous le feu des critiques pour son intervention en Syrie, affronte la France dans la course à la qualification pour l'Euro 2020. Difficile de faire abstraction du contexte géopolitique. Le match, Nicolas Georgerot, se déroulera sous très haute sécurité.
Oui, 20 000, 30 000 supporters turcs attendus ce soir. La très grande majorité disséminée un peu partout dans le stade. Les Bleus y seront préparés, selon le défenseur Raphaël Varane.
C'est le genre d'ambiance qui, bien sûr, nous motive, peut nous transcender. On a une motivation supplémentaire, mais qui est due au terrain, simplement, à notre contre-performance du match aller. Après le contexte géopolitique, on essaie de faire abstraction, c'est pas ce qui nous préoccupe.
L'offensive turque en Syrie ces derniers jours contre les milices kurdes, condamnée fermement par la France, se rajoute à cette tension sportive. Les autorités craignent une Marseillaise sifflée. Didier Deschamps, le sélectionneur, a pris bien soin de ne pas aller sur le terrain diplomatique.
Chacun est libre de parler, d'écrire, de faire de mélange. Là, on est dans une sphère sportive et ce qui m'intéresse, c'est uniquement le match et ce qui se passera sur le terrain.
600 stadiers mobilisés, le nombre de forces de l'ordre a été doublé par rapport à une rencontre habituelle. L'ambassade de Turquie a fait diffuser un message demandant aux supporters d'éviter les débordements. Il y a 10 ans, à Lyon, en amical, le match avait été interrompu 5 minutes en raison de fumigène lancé sur la pelouse.
Nicolas Georgerot, on reviendra à la fin de ce journal, évidemment, avec Bichente Lizarazu sur l'aspect purement sportif de ce match. Sur le terrain militaire en Syrie, les rapports de force sont-ils en train d'évoluer? Coup de théâtre hier, les Kurdes, lâchés par les Américains, ont fait appel à leur ennemi d'hier, le régime de Damas, qui a accepté de leur porter secours. C'était encore impensable il y a quelques heures, quelques jours. Bachar el-Assad va envoyer des troupes au nord du pays pour défendre les Kurdes contre les Turcs. Bonjour Pierre-Julien.
Bonjour Jérôme.
Voilà l'Europe et la France bien embarrassées. Faut-il soutenir le pestiféré Bachar el-Assad?
Oui, qui est la peste et qui est le choléra. Paris affirme toujours soutenir la cause kurde et espère éviter un nouveau drame humanitaire. La carte Bachar ne peut plus être écartée. Paris se retrouve évidemment face à un dilemme inédit après le lâchage américain et sa conséquence directe, l'offensive turque. Ankara est notre allié dans l'OTAN, très bon client en matière d'armement français, est désormais pratiquement mis au banc des nations en bombardant sans distinction miliciens kurdes et populations civiles, comme hier à Ras al-Ain, tuant des femmes et des enfants et un journaliste étranger. De l'autre côté, Bachar al-Assad, leader criminel qui à plusieurs reprises a utilisé l'arme chimique contre sa population. Mais voilà, le chef de l'État syrien se meut en chevalier blanc, défenseur des innocents, même s'il considère toujours les séparatistes kurdes comme des éléments dangereux pour l'intégrité territoriale de son pays. Évidemment, Bachar a donc commencé à déployer ses soldats face à l'armée turque avec le soutien total de Moscou. Il faut préciser que l'accord entre Damas et les forces démocratiques syriennes, à grande majorité les unités de protection du peuple kurde, a été négocié sur la base russe de Emin à Latakia, avec une constatation qui va provoquer quelques poussées d'urticaire dans les capitales occidentales. Poutine semble plus fiable que Trump.
Merci beaucoup pour ces explications. Pierre-Julien.
RTL, 8h05.
Des interpellations ce matin dans l'entourage du tueur de la préfecture de police de Paris.
C'est une information RTL, elles ont eu lieu dans le Val-d'Oise, Gonesse. Vous avez des précisions, Olivier Bois?
Oui, 5 hommes ont été interpellés au milieu de la nuit pour garantir l'effet de surprise. Effectivement, dans le Val d'Oise, le département où vivait Michael Harpon, ces 5 hommes connaissaient le terroriste de la préfecture. Ils le fréquentaient notamment à la mosquée. Pour l'instant, rien ne dit dans l'enquête que Michael Harpon ait bénéficié d'un réseau ou de complicité. Mais les enquêteurs de la brigade criminelle veulent savoir si ces hommes connaissaient les projets de Harpon ou ont participé à sa radicalisation. Voilà pourquoi les policiers de la DGSI et de la BRI parisienne sont allés les chercher cette nuit.
Les informations RTL de Olivier Bois. Merci Olivier.
La grande colère des pompiers.
Ils vont se faire entendre demain en manifestant après 3 mois de grève. Un mouvement que vous n'avez peut-être pas remarqué, comme dans les urgences, car ils doivent, les pompiers, rester en poste pour porter secours. Si les pompiers professionnels n'en peuvent plus, c'est parce qu'on les appelle pour tout et très souvent pour pas grand-chose. Aujourd'hui, ils jouent les taxis, les ambulanciers ou même les nounous. Nous avons suivi la vie d'une caserne à Bourg-en-Bresse dans l'Ain. RTL en immersion, signé Anne Le Hénaff.
La grue des pompiers hisse la nacelle à 32 mètres de haut dans le jour qui se lève.
À 7h, à la prise de garde, il y a une vérification totale et entière de l'ensemble des véhicules.
Mais cette grue ne va pas servir ce matin-là. Ghislain Bouilloux et son collègue viennent au secours d'un très vieux monsieur, avachi dans son fauteuil, collé à son poêle à bois.
Vous avez du mal à respirer ?
C'est un monsieur de 83 ans qui a des difficultés respiratoires depuis 3 jours. Il n'y a pas d'urgence vitale. C'est une personne qui est en difficulté sociale, qui n'a pas de proches. Il n'a personne pour l'emmener.
Des missions qui devraient revenir à des ambulances privées, mais faute de véhicules disponibles, le SAMU a choisi d'envoyer les pompiers. C'est de plus en plus fréquent, s'agace Alexandre, et parfois les appels sont encore plus navrants.
Quand ils ont le radiateur qui fuit à 2h du matin, que c'est qu'ils vont appeler ?
Ils appellent les pompiers. Ça fait pas du tout partie de l'image du pompier.
À la caserne, le lieutenant Richard Bougard feuillette la main courante.
Hier, nous sommes intervenus 22 fois. Et sur ces 22 fois, en fait, on a fait 14 assistances en fait, à des personnes qui ne sont vraiment pas des interventions à caractère urgent pour nous.
Lui et ses hommes font plus de 7000 interventions par an. C'est 2 fois plus que lorsqu'il a commencé il y a 30 ans.
À l'époque, on faisait beaucoup de désincarcérations, un petit peu d'incendie. Et malgré tout, quand on faisait du secours à personne, la personne avait vraiment besoin des pompiers. Elle était vraiment en détresse. Aujourd'hui, on fait plutôt de la détresse en fait, sociale. Et nous, les pompiers, en fait, on est la dernière roue du carrosse. En fait. Au bout d'un moment, c'est lassant.
À la pause café, les anecdotes fusent.
Une personne qui tombe au sol pour la relever... On va nous appeler nous, on va pas essayer de voir si les voisins sont disponibles.
Le ballon d'eau chaude qui fuit, des choses comme ça. Faire déplacer les pompiers, c'est gratuit. Donc.
Quand on est occupé à faire ce genre de choses, on peut être, ne pas être présent sur les vraies missions urgentes qui peuvent arriver derrière. Et ça, c'est notre inquiétude.
Sur les 16 pompiers de service ce matin-là, 4 vont manifester à Paris. Une dizaine d'autres auraient bien voulu, mais ils sont de garde à la caserne.
RTL en immersion, signé Anne Le Hénaff. Mobilisation en ce moment même autour d'un spéléologue coincé dans une grotte dans les Pyrénées-Orientales. Il a 68 ans, il s'est blessé à 350 mètres sous terre. 45 secouristes sont sur place dans la grotte du Figuier.
RTL Matin, 8h08.
Après la pause, les longues, très longues journées de Patrick Balkany en prison depuis un mois maintenant.
RTL Matin.
RTL 8h10, la suite du journal Jérôme Florin et Calvi.
Patrick Balkany au régime sec.
Il aurait perdu 8 kilos. Cela fait un mois maintenant que le maire de Levallois, condamné pour fraude fiscale, dort à la prison de la santé. Et il connaîtra vendredi le jugement dans le volet corruption et blanchiment de son procès. Jean-Alphonse Richard, le quotidien de Patrick Balkany, c'est un peu voyage au bout de l'ennui en ce moment.
Oui, un mois au cours duquel Patrick Balkany est presque entré dans la routine de la vie carcérale. Toujours pas de sortie en promenade en raison de son mal au dos persistant et de plusieurs ascenseurs en panne à la santé. Toujours pas non plus d'appétit pour les plateaux repas qui arrivent trop souvent froids dans sa cellule. Celui que les autres détenus surnomment familièrement « papa » a perdu près de 8 kilos et a dû faire un trou supplémentaire à la ceinture de son pantalon. Patrick Balkany, qui continue à recevoir des lettres d'admirateurs et d'admiratrices, ne rêve que d'une chose, retrouver la liberté pour pouvoir reprendre son fauteuil à la mairie de Levallois. Il téléphone à sa secrétaire tous les jours, la mairie, une obsession pour celui qui répète à ses gardiens qu'il a fait appel et qu'il est encore loin d'être définitivement condamné.
Jean-Alphonse Richard, victoire en forme de cadeau empoisonné pour Christian Jacob. Le député de Seine-et-Marne est élu à la tête des Républicains dès le premier tour, un parti en capilotade qui a fait son pire score aux Européennes, je vous le rappelle, 8,5%.
RTL 8h11.
Alors achèterez-vous un morceau de la Française des Jeux ?
La privatisation voulue par le gouvernement sera lancée le 7 novembre. Mmh. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, souhaite que les Français y participent activement. Il promet d'ailleurs une décote de 2% sur le prix des actions et ceux qui en achètent 10 auront droit à un bonus.
Alors, si on reprend les dernières grandes privatisations, a-t-on eu raison d'y aller et d'investir ? Eh bien, c'est la question du 8h.
Et c'est avec vous, Martial You, bonjour.
Bonjour.
Les dernières privatisations ont-elles été rentables pour les actionnaires individuels qui ont pris des actions ?
Alors non, pas vraiment, mais le placement n'a pas non plus été perdant. Si on fait un petit inventaire, si vous voulez bien, EDF, qui est la dernière grosse privatisation et introduction en bourse en novembre 2005, prix d'introduction 29 euros. Vendredi dernier, le titre valait 9,43 euros,
oula,
plombé par le PER notamment. Orange, introduction en octobre 1997, 27 euros, elle vaut 14,80 euros. Mais le pompon, Thomson Multimédia, devenu Technicolor, a été introduite à 300 euros l'action et vaut aujourd'hui 75 centimes. Bon, maintenant, BNP, Renault, Total, si vous avez pris ces actions-là, elles ont des cours supérieurs aujourd'hui à celui de leur premier jour en bourse. En fait, les portefeuilles composés d'anciens groupes publics ont des performances neutres parce que les pertes de l'action sont souvent compensées par le versement d'un dividende important. Le dividende, c'est la prime de fidélité et la prime de risque que donne l'entreprise aux actionnaires qui la soutiennent.
Alors, Martial, on attend maintenant vos conseils. Comment éviter de boire le bouillon si on choisit d'investir en bourse dans un ancien monopole public ?
Règle de base élémentaire, si on n'est pas un professionnel, on investit en bourse uniquement l'argent qu'on peut perdre, parce qu'il y a une prise de risque. Ensuite, si on achète des parts dans un groupe public comme FDJ avec une ristourne, vous l'avez dit, de 2 euros et une action gratuite pour 10 achetés, eh bien, le bon moment pour revendre, c'est au début, dans les deux premières années, quand vous bénéficiez encore à plein des tarifs préférentiels au moment de l'introduction. Mais de toute façon, il faut diversifier son portefeuille. Boursicoter, ça prend du temps, sinon le livret A ou une assurance vie, c'est plus simple.
Voilà qui est très clair. La question du 8h avec Martial.
La nouvelle a été confirmée ce matin. Le groupe Saint-Gobain veut se débarrasser du géant du bricolage Lapeyre. L'entreprise est en difficulté depuis plusieurs années. Ses 128 magasins emploient 3600 salariés.
Nous l'évoquions dès le début de cette édition. France-Turquie, c'est donc ce soir au Stade de France.
Coup d'envoi 20h45 dans un climat, on l'a dit, tendu en raison du contexte géopolitique. Les Bleus du football vont tenter d'arracher dès à présent leur qualification pour l'Euro 2020 après avoir battu l'Islande vendredi. Et ils peuvent compter, d'après notre consultant Bichène Télizara, sur un super patron, Didier Deschamps.
Après ce match face à l'Islande, qui était un match très moyen, hein, je ne vais pas dire que je me sois régalé. Il y a eu des critiques sur le jeu. Mais par contre, moi, j'aimerais qu'on regarde le parcours de cette équipe de France depuis que Didier Deschamps est à la tête de cette équipe. Dans le métier d'entraîneur, il y a plusieurs choses. Il y a la façon dont l'entraîneur fait jouer son équipe, mais il y a aussi la façon dont il manage les joueurs. Et manager les joueurs, je pense que c'est le travail le plus difficile pour un entraîneur. Et Didier Deschamps, non seulement il manage bien ses joueurs, mais en plus de ça, il manage bien les parents des joueurs, les frères, les sœurs des joueurs, les agents des joueurs. Parce qu'en fait, c'est ça, l'environnement d'un joueur peut poser des problèmes à une équipe s'il crée une interface, s'il a une influence. Et ça, c'est un talent, de savoir d'abord se faire comprendre de ses joueurs, se faire comprendre de l'entourage, et puis si jamais il ne se fait pas comprendre, dans ces cas-là, il coupe. Dans ces cas-là, il ne prend pas le joueur. Et puis, il n'y a pas que les joueurs, il y a une deuxième équipe. C'est le staff. Parce qu'un staff qui ne parle pas la même langue, ça peut créer des interférences dans une équipe. Aujourd'hui, on est dans le retour d'une institution forte, d'un sélectionneur qui maîtrise tout, qui donne un cadre de qualité qui est propice à la performance. Quart de finale, Coupe du Monde 2014, finaliste Euro 2016 et vainqueur de la Coupe du Monde 2018. C'est pas le hasard. Et ça, ça s'appelle aussi du talent.
Bichente Lizarazu avec Philippe Sanfourche.
France-Turquie, coup d'envoi à 20h45, à suivre en intégralité sur M6 avec un Club Lisa spécial de 20h à 23h et bien entendu aussi sur M6.
Et on aura une pensée aujourd'hui, oui, pour Eugène Saccomano, encore une pensée, les obsèques de l'ancienne voix du foot de RTL sont célébrées à 14h30 en l'église de la Garde Freinet dans le Var.
L'histoire du jour ?
Alors tout est parti d'une blague, une simple blague sur Facebook. Un Belge a annoncé l'organisation du championnat mondial de flatulence pour le samedi qui vient au Palais des Congrès de Liège. Résultat, déjà plus de 3000 inscrits. Beaucoup ont eu vent de ce concours un peu particulier, à tel point qu'il pourrait bien avoir lieu pour de vrai samedi dans une annexe du Palais des Congrès. Un événement qui pourrait faire du bruit. C'est la chanson de Gainsbourg.
Je me souvenais pas.
Mais si, Evgeny Sokolov,
ah oui,
1982.
Très bien, ça manque à ma connaissance littérale de la musique française. C'était donc le journal de jour.